Radio Libertaire 89,4 MHz, nous sommes ensemble pour une heure et demie. Une heure et demie, c'est le temps que 8,575 litres d'eau soient consommés pour votre usage personnel sous forme d'hygiène, de chasse d'eau, de lessive, d'hydratation et de cuisine. Une heure et demie, c'est le temps que les entreprises françaises spécialisées dans les ventes d'armes réalisent des ventes pour 4,6 millions d'euros. Une heure et demie, c'est le temps que 47 agressions sexuelles soient déclarées en France. Une heure et demie, c'est le temps que 6300 nouveaux passagers dans le monde embarquent à bord des paquebots de croisière sur les formes de villes flottantes énormes ou débarquent également. Et une heure et demie, c'est une minute de liberté pour une femme afghane quand il n'y a pas sur ses épaules le poids des yeux de son mari, de son frère ou de son père. Dessous de scène, histoire de commencer ce magazine aussi, quelques petits « Je me souviens ». Je me souviens qu'après le succès de leur PMA, procréation masculinement assistée, Anna et Caroline annonçaient « Ça y est, nous sommes enceintes ». Alors que, quand même, seul le ventre d'Anna s'arrondissait grâce aux dons manuels et onanistes du frère de Caroline, du moins le disait-on ainsi. Je me souviens que quand trois poules s'en vont au champ, la première n'est jamais la dernière, quand trois poules s'en vont au champ, la première s'en va devant. Je me souviens que les jours impairs, Michel écoutait des chansons de Léo Ferré et les jours pairs, il lisait sa biographie. Il y a de la chance, remarquez. Dans une année, il y a plus de jours impairs que de jours pairs, grâce au 31 janvier, 31 mars, etc. Je me souviens que pour ma part, que ce soit jour pair ou impair, je peux écouter Brassens ou lire sereinement des anecdotes sur sa vie. Je me souviens que sur la plus haute branche, un rossignol chantait. Je me souviens qu'Hervé aimait poser la question « Si je te demande de ne pas penser à un éléphant, tu penses à quoi ?» Je me souviens qu'on citait parfois le grand-oncle Léon en précisant « Mais si, celui qui avait violé Tata Suzette quand elle avait 12 ans, sur un ton neutre, juste pour le resituer. Preuve finalement qu'il est de lourds secrets de famille que le patriarcat des campagnes ne cachait même pas sous le tapis ou sous les édredons. » Je me souviens d'une CPE. CPE, ça veut dire conseillère principale d'éducation. Moi, quand j'étais gamin, on disait surveillant général ou surgé. Une CPE avait engueulé une lycéenne parce que, je cite, « son croque-top dévoilait son nombril, c'était indécent ». Alors, je me suis senti obligé de faire immédiatement la morale à un lycéen dont le t-shirt mettait trop en valeur ses tablettes de chocolat. Logique, non ? Je me souviens de « bisous esquimaux », on se frotte le nez, « bisous papillons », on fait bouger très vite les cils, et « bisous maman d'amour ». Je me souviens de Berthier, Mortier, Poniatowski, Brune, Bessière, Davout. Oh non, 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 non pas que j'ai étudié toutes les campagnes napoléoniennes à l'époque et retenu la liste de ses généraux. Murat, Soult, Kellermann, Ney, non. Mais j'aimais tant le bus de petite ceinture. Serrurier, Lannes, Gouvion-Saint-Cyr. Je me souviens que Jean-Marie avait 3 ans de plus que Marie-Pierre. Je me souviens que Marie-Pierre avait 5 centimètres de moins que Jean-Marie. Je me souviens que Jean-Marie avait les yeux bleus et n'avait d'yeux que pour Marie-Pierre dans la cour de l'école communale. Je me souviens que Marie-Pierre avait les yeux noisettes et fondaient pour un regard de Jean-Marie. Je me souviens que Jean-Marie avait invité Marie-Pierre pour 3 jerks et 2 slots à la fête du village. Je me souviens que Marie-Pierre avait dansé la tête sur l'épaule de Jean-Marie. Je me souviens que Jean-Marie retrouvait Marie-Pierre à la descente du car scolaire. Je me souviens que Marie-Pierre séchait les cours d'allemand pour retrouver Jean-Marie à la descente du premier quart de ramassage. Je me souviens que Jean-Marie parlait avec Marie-Pierre de la maison qu'il bâtirait plus tard. Je me souviens que Marie-Pierre chuchotait à Jean-Marie des prénoms d'enfants et de chats qu'ils auraient un jour. Je me souviens que Jean-Marie dut suivre ses parents qui déménageaient à Valence et promit à Marie-Pierre de lui écrire tous les jours. Je me souviens que Marie-Pierre écrivit toutes les semaines à Jean-Marie. Je me souviens que Jean-Marie perdit plusieurs fois l'adresse de Marie-Pierre, notamment la fois où il partit faire son service militaire. Je me souviens que Marie-Pierre écrivit tous les mois à Jean-Marie, sauf le mois où elle déménagea à Valenciennes pour ses études de droit. Je me souviens que Jean-Marie pensait encore à Marie-Pierre quand il rencontra Christine, qui allait devenir sa première épouse. Je me souviens que Marie-Pierre envoya à Jean-Marie un faire-part de son mariage avec Thierry, avec un pincement au cœur. Je me souviens que Jean-Marie eut 3 enfants, dont un fils qu'il appela Pierre, et 7 petits-enfants. Je me souviens que Marie-Pierre eut 3 fils, dont un qu'elle appela Jean, et 3 petits-enfants. Je me souviens que Jean-Marie travailla comme ajusteur, puis reprit un camping à Berck avec Stéphanie, sa seconde épouse. Il pensait parfois à Marie-Pierre. Je me souviens que Marie-Pierre travailla comme secrétaire administrative, puis secrétaire de mairie d'un groupement de communes dans les Landes. Elle pensait parfois à Jean-Marie. Je me souviens que Jean-Marie eut un jour 73 ans, divorcé pour la 2e fois dans son pavillon. Il avait le temps de faire le bilan de sa vie et de cultiver ses pensées. Je me souviens que Marie-Pierre eut un jour 70 ans. Elle était veuve et retrouva une boîte à chaussures avec de vieilles photos. Je me souviens que Jean-Marie s'acheta un ordinateur et se connecta à Internet. Je me souviens que Marie-Pierre récupéra une tablette tactile d'un de ses petits-enfants. Je me souviens que Jean-Marie Martin chercha sur Copains d'avant et de multiples sites Marie-Pierre Nguyen. Je me souviens que Marie-Pierre Nguyen googlisa plusieurs soirs de suite le nom de Jean-Marie Martin. Mais je me souviens que Jean-Marie Martin ne retrouva jamais la trace de Marie-Pierre. Je me souviens que Marie-Pierre retrouva un Jean-Marie Martin, mais ce n'était pas le bon. Je me souviens que j'adore raconter des histoires à la con. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, j'aperçois dans les studios les cheveux gris-blancs de Anne, on va parler théâtre, les cheveux de G. d'Evelyne, on va parler théâtre, et la crête de Fabien, on va parler de chats. Remarquez, des chats, il y en a chez Baudelaire, je ne sais pas s'il y en a chez Francis Blanche. Ici, les studios, à vous les studios.
Il n'y a pas assez de retour, parce que je vieillis et je commence à devenir sourde.
Ben voilà.
Ben oui, parce que depuis le temps, je crois que je suis là depuis 2008 ou 2009. Hein. Ben oui, oh là là, oh là là. J'ai regardé les photos, diable que j'ai vieilli.
Mais non, mais non.
Ben enfin, c'est pas grave. De toute façon, ça fait partie de la vie, hein, la vie de vieillir. Hein. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors aujourd'hui, donc, place au théâtre, poésie et musique. Hein. C'est tout un tout. Il faut savoir que cette émission, monsieur Nicolas Choquet l'a baptisée Magazine de créatures radiophoniques. Donc, vous êtes intronisé, vous êtes des créatures radiophoniques.
Très bien, très bien.
Voilà. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas.
Surtout.
Surtout.
Où on fait de la créature, mais je ne sais pas si ça existe.
Comment?
On fait de la créature.
Ah, on fait de la créature.
C'est de la création,
oui.
Monsieur.
Oui, de la création. D'accord. Ah. Bon. Alors aujourd'hui, donc, on a le plaisir. Il y a dans le studio Fabien.
Et bonjour à tous. Bon, je suis là en tant qu'invité puis observateur. Et...
Ah, d'accord. Tu vas y mettre tes critiques.
Oui, voilà.
Anne Delalleux.
Bonjour à tous.
Evelyne. Et on a comme invité. Alors. Exceptionnellement, voilà, on est quand même le 22 août et normalement tout le monde est en vacances et fait autre chose que de faire du théâtre, etc. Mais non, je crois que... Alors, monsieur...
Jean-François Vinci-Guerra.
Ouais, il joue actuellement au théâtre,
oui,
à l'Orangerie de Bagatelle.
À l'Orangerie de Bagatelle, dans le cadre des culturels de Bagatelle, le marchand de Venise de Shakespeare.
Voilà.
Voilà.
Et je vous invitais. Alors je l'ai pas vu. Hein. Je n'ai vu ni le spectacle sur Francis Blanche et Pierre Dac. Je l'ai pas vu, mais je connais un peu. Je connais un peu parce que je connais bien le. Alors j'allais dire un des fils de Francis Blanche, mais il y en a qu'un. Bon. Donc le fils de Francis Blanche qui s'appelle Jean-Marie.
Oui.
Voilà. Et d'ailleurs j'ai envoyé à Nicolas un texte de Francis Blanche qui figure dans Mon oursin et moi, je crois, je vous connais si bien, je vous ai connu, je ne sais plus, hein, un poème sur un peu humoristique de relation entre un homme et une femme. Hein. Je vous ai connu.
Quand je vous ai connu.
Quand je vous ai connu, voilà. Mais il y en a bien d'autres. Hein. Jean-Marie, il a beaucoup interprété des textes, des poèmes de son père. Et puis, alors, on va revenir là-dessus. Et Louis de Bérail, hein, c'est un joli nom. Hein.
Oh, c'est gentil et vous le prononcez très bien.
Ah, bah, tant
oui, oui, non, mais c'est comme ça, tout à fait. Et oui, moi je viens parce que je fais un spectacle sur Baudelaire autour du Spleen de Paris, les petits poèmes en prose. Et je jouerai à partir du 20 septembre au studio Héberto.
Voilà. Alors moi j'ai eu la primeur parce que j'ai vu ça il y a quelques mois, en avril, je ne sais plus, c'était en avril.
C'était en avril.
En avril. Et c'est vrai que j'avais bien aimé hein, ce spectacle. On va en reparler ensuite.
Bien sûr.
Et Anne, je te conseille d'y aller. Hein, c'est au studio Héberto. Oui. Voilà.
Il faudra dire les jours. Alors c'est
du 20 septembre au 11 octobre, les dimanches à 19h.
Alors, c'est une belle coïncidence que vous soyez tous les deux dans le studio, parce que figurez-vous, bon, c'est d'histoire ancienne, hein, j'ai rencontré le fils de Francis Blanche, il y a plus de 20 ans, lors d'un spectacle qui associait Francis Blanche et Baudelaire.
Ah.
Alors, j'étais...
C'est à méditer. Hein.
Oui. D'ailleurs, j'en parle dans la préface, une sous-préface de Mon oursin et moi. Mm-hmm. Et ça m'a titillée. Je me dis, mais qu'est-ce que vient faire Francis Blanche avec Baudelaire? Et c'est ça qui m'a poussée à aller écouter ce petit récital. C'était un jeune artiste qui s'appelait Laurent Frogomano et qui disait donc des textes de Francis Blanche et de Baudelaire. Et même des textes, un texte de Jean-Marie Blanche.
Ah oui.
Voilà. Et ça a été c'est comme ça que j'ai rencontré Jean-Marie Blanche. Mm-hmm. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. Comme quoi, il doit y avoir quand même une affinité entre Baudelaire et Francis Blanche. Hein, mine de rien. Parce que j'ai pas fait exprès, en fait. J'ai pas fait exprès, je me suis pas...
Sans doute que Francis Blanche a dû beaucoup inspirer Baudelaire.
Exactement.
Voilà. Alors... deuxième coïncidence, donc j'ai appelé monsieur Vinci Guerra, n'est-ce pas? Je lui ai envoyé un mail, et puis au téléphone, monsieur Vinci Guerra me dit, mais je connais Jean-Marie Blanche.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, quand j'ai enregistré ce spectacle pour la télévision, il y a déjà quelques
années... Alors, on va dire le titre du spectacle.
Oui, Cherche piano à queue en un seul mot, pour jouer la truite de Schubert. C'était une des petites annonces de Los Amoal, donc de Pierre Dac. Et il se trouve que j'ai créé ce spectacle donc au théâtre de la Potinière à Paris, qui maintenant s'appelle Pépinière Opéra. Et suite à cette représentation dans ce théâtre, nous l'avons enregistré pour la télévision, pour l'émission d'Alain Duhaut, Musique et compagnie, qui est donc une émission de musique classique, mais où il cherchait en fait des interprètes, des instrumentistes, on va dire, des interprètes classiques, mais qui partaient dans un délire autour de des chansons de Francis Blanche et Pierre Dac, qui ont transgressé les grands classiques, voilà. Et lors de l'enregistrement, qui était un enregistrement public pour la télé, Jean-Marie Blanche était venu avec sa maman. Donc j'ai une photo effectivement avec Jean-Marie et sa maman et Alain Duhaut, voilà.
Ah oui, d'accord. On doit pouvoir trouver cet enregistrement à INA.
Ah oui, bien sûr. Je me demande même si c'est pas sur comment on appelle ça
YouTube.
Oui.
Ah c'est sur YouTube.
Je pense peut-être. Oui.
De 94.
Oui. C'est 95 l'enregistrement.
Ah 95.
1900. Hein.
Ah bon.
Oui. On est bien d'accord.
Oui, quand même.
Oui, quand même.
on est évidemment.
Comme quand on parlait de Baudelaire.
Voilà.
Faire attention.
Et alors, donc, moi, j'ai vu des extraits sur un YouTube. Alors, il y a plusieurs YouTube. Hein.
Oui. Oui, c'est le teaser du spectacle que vous avez dû voir.
Oui, je vois. Voilà. Il y en a plusieurs.
Oui.
Il y en a un qui est un petit peu long, 14 minutes, c'est un petit peu long. Un peu long pour la durée d'émission.
Oui.
Mais sinon, il y en a d'autres. On va peut-être en entendre un extrait quand même.
Oui.
Et enfin, pour ce que j'ai vu, vous êtes déchaîné quand même.
Ben, c'est un récital. Moi, je l'appelle récital frappadingue. Oui. Voilà, donc c'est oui, effectivement, c'est un récital.
Quand je dis déchaîné, c'est pas dans la. C'est pas une critique.
Non, hein. Non, mais je le prends pas comme une critique, oui, bien au contraire. Oui. Mais effectivement, je pense que voilà, c'est quand même tous les deux, Blanche et Dax, ce sont les maîtres du loufoque. Et même si on est en tenue de concert, même si c'est. L'idée de départ, c'était vraiment de monter ce programme comme une Schubertiade, c'est-à-dire comme voilà, un récital Schubert ou un récital Brahms, etc. Mais là, c'est Francis Blanche et Pierre Dac. Donc, ça part d'une chose extrêmement sérieuse et qui, évidemment, part en vrille très rapidement. Quoi.
Oui, 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 parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas tout ce répertoire musical de Francis
Blanche.
Non,
et puis surtout, ce qu'il faut, c'est aussi... Là, j'ai la chance d'être accompagné par Véronique Briel, qui est une pianiste qui fait partie de l'ensemble de The 2M, qui joue avec toutes les plus grandes formations, qui joue régulièrement à l'Opéra de Paris, etc., dans l'Orchestre de l'Opéra. Véronique joue réellement la musique de Ravel, joue réellement la musique de Rossini, de Beethoven, de Schubert, etc. Enfin, il faut...
c'est une vraie pianiste classique.
Voilà, c'est-à-dire que la parodie est drôle si c'est fait sérieusement au départ. Voilà, sinon, ça ne fonctionne pas.
Ah oui, 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 voilà. Oui. Ah oui, d'accord. Alors, vous reprenez exactement les mêmes chansons que...
Oui, oui, alors on a, comme ils le disaient eux-mêmes, on a le Brasero de Ravel...
Oui, bah oui, ça,
donc,
oui.
Voilà,
oui,
qui est l'hymne du Parti d'en rire. On a l'hymne à la barbe sur l'ouverture du Barbier de Séville. On a l'air de Figaro aussi sur du Barbier de Séville. On a Tristesse de Chopin et c'est un chant, c'est intitulé Chant d'allégresse. Mm-hmm. On a évidemment le complexe de la truite qui est donc la
sur
la
truite de Schubert. Ah oui, moi j'adore celui-là, je l'adore. Voilà. Vrai,
oui. On a Franz Liszt, donc elle joue quand même la rhapsodie hongroise de Franz Liszt sur l'alcool. Voilà, donc oui, effectivement, il faut avoir de vrais musiciens pour interpréter Francis Blanche et Pierre Dac, même si c'est loufoque, il faut des vrais musiciens.
D'accord. Et vous êtes chanteur.
Et moi, je suis chanteur d'opéra, oui, oui. Je partage ma vie entre l'opéra et le théâtre. Mais enfin, ça fait 40 ans que je chante... sur des scènes françaises et internationales et où je suis revenu au théâtre en fait il n'y a pas très longtemps, en 2014 où j'avais joué un spectacle avec mon grand complice Éric Logérias au Théâtre Montparnasse sur un autre loufoque qui était Jean-Yann.
Ah oui.
Donc on avait joué un spectacle qui s'intitulait On n'arrête pas la connerie et qui était un montage des chansons et des sketchs de Jean-Yann.
Ah oui, d'accord, voilà. D'accord. Alors là ça va se jouer à l'Orangerie de Bagatelle.
À l'Orangerie de Bagatelle, le 4 et le 5 septembre. Mm-hmm. Le 4 à 20h et le 5 à 17h.
Et là, c'est exceptionnel. C'est pour le festival.
Voilà, c'est à l'invitation de Karine Montag et de Paul Montag, qui sont les co-directeurs des culturels de Bagatelle. Mm-hmm. Et en fait, quand, c'est Karine, en voyant le teaser en fait, du spectacle, qui m'a dit « Mais c'est tellement drôle. » Puis elle l'a présenté à son frère, qui est un très grand pianiste, Paul, et qui a dit tout de suite, oui, faut absolument le programmer, quoi, voilà.
Ah oui, oui, oui.
Voilà,
oui.
Ça s'est fait comme ça, en fait.
Ah, d'accord, oui. d'accord. Parce que ça vaudrait le coup de le jouer un peu plus longtemps.
Ah ben oui, moi je serais partant de le refaire à Paris. Mais là, depuis la création en 94, je l'ai énormément joué dans mais surtout beaucoup de festivals de musique classique. J'étais un petit peu le troublion de la programmation c'est-à-dire que ça amusait beaucoup les gens d'avoir un chanteur d'opéra qui d'un seul coup arrivait et parce que je chante pas tout le temps en voix lyrique en plus. Évidemment je joue avec la voix donc voilà, mais c'est ça qui est amusant aussi et qui permet de servir au mieux les fantaisies de Francis Blanche et de Pierre Dac.
C'est dommage, c'est assez rare maintenant qu'on rejoue ces textes de
Francis Blanche. Oui, alors c'est non seulement c'est drôle, mais c'est aussi plein de poésie. On parlait de Mon oursin et moi tout à l'heure, donc ce recueil de poèmes. Voilà, c'est sans doute d'ailleurs la passerelle avec Baudelaire. Enfin, ça peut en être une en tous les cas. C'est que c'est un vrai poète.
Oui,
Francis Blanche, c'est un vrai poète. Et Mon oursin et moi.
C'est plus des poèmes d'ailleurs qui sont plutôt mélancoliques ou plutôt c'est pas des poèmes où on... oui évidemment il y a le berger, il y a deux trois poèmes qui sont très drôles, mais il y a plein d'autres poèmes, la mort d'Arlequin, tout ça c'est très mélancolique, c'est très touchant. Mmh.
Oui, tout à fait. Il faudrait même que vous fassiez un deuxième spectacle sur d'autres
voilà,
textes.
Non, on va faire un spectacle Baudelaire blanc.
C'est déjà annoncé.
Voilà, c'est annoncé. Ce sera à l'Arena. Il faut une salle assez grande quand même.
Pour faire résonner
les verres. Oui, c'est mieux.
Oui,
faire teinter en tous les cas.
Oui.
Voilà.
Alors, il n'y a peut-être pas de bande annonce, mais il y a peut-être un YouTube. On va écouter quand même pour en donner un peu.
La pince à linge. Accord trémolos et arpège, fantaisie, hop, à quatre mains. Mais à l'instant tout s'agite, sous l'ardente aiguillon de la chair.
Elle se mit à fredonner la truite de Schubert.
Déçu par un mari franc-maçon, recherche plombier menteur. Végétarien, se lierait d'amitié avec grosses légumes.
Si notre parti de la rigueur, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti.
Ainsi donc nous avons pris le parti
de tout ce qui n'est pas
de prendre la tête d'un parti,
parti d'en rire, oui,
qui soit un peu comme un nombril.
Parti, notre parti,
un parti placé au-dessus des partis.
Le parti,
en bref, un parti,
notre parti, parti d'en rire.
L'odieux individu. J'aurais dû penser à rincer le couteau. Tout nous sourit, tout resplendit, tout est douceur, les hommes s'aiment comme des sœurs, oui, comme des sœurs.
Psychopsychose par-ci, psychopsychose par-là, y'a de la psychose en vrac, à l'appel ou en tas. La psychose est partout, la psychose est à nous, qui nous observe de tous côtés, par tous les bouts.
Allez gros.
Bah dites donc quand même.
Allez gros.
Oui bah ça va, c'est
tempo.
Passe à l'âge, grâce à toi maintenant, nos chemisettes, nos chaussettes résistent au vent, et nos caisses sont dorénavant répondront présent. Dites donc, vous, il me semble que vous buvez beaucoup, dit voyou. Et vous, il me semble que vous ne vous privez pas, mon petit gars. Et whisky, vous faut à tous, c'est du whisky, bien tassé, assez.
Ah ben non, mais là, il n'y a plus rien, là. Attendez. Pouvez vous écarter un peu, s'il vous plaît? Non, plus loin. Écartez-vous. Un peu plus loin. Voilà.
Chantons bien tristement pour la sœur Marie-Louise. Un peu brutale par moment, mais qui nous aime.
Oui, ça a du succès, dites donc.
Ben oui, on espère, on espère. Oui. Mais là, cette sœur Marie-Louise, c'est un peu particulier, puisqu'en fait, on découvre qu'en fait, c'est un homme qui était rentré dans un couvent. Voilà, donc c'est le côté un peu sister act de la soirée, où nous sommes, nous sommes avec les cornettes.
Oui, j'ai vu ça.
Oui, oui, le pianiste. Là, en l'occurrence, ce n'est pas Véronique qui est au piano, c'est Jean-Marc Bouget, qui est un pianiste, qui est aussi à l'Opéra de Paris, d'ailleurs, et avec qui je partage ce programme entre Jean-Marc et Véronique.
Vous vous amusez, quoi.
Ah, ça, on s'amuse. Et parfois, en répétition, ça nous arrive même de nous amuser nous-mêmes de nos...
De vos blagues.
De nos blagues, enfin, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est un moment de vrai partage avec le public, parce que on s'amuse beaucoup. Et puis, même si vous n'avez pas les références de musique classique, etc., c'est pas très grave, parce qu'en fait, il y a aussi tout le côté visuel, bien évidemment. Et puis, il y a pas que des chansons qui sont basées sur le classique. On entendait la fin de la chanson Le carton à chapeau, par exemple, où ce personnage raconte qu'effectivement, il parle de son amour, il est très touché par cette femme qu'il aime, etc. Et puis, qu'est-ce que je vais faire du carton à chapeau ? En fait, on découvre à la fin qu'il lui a coupé la tête et qu'elle est dans le... C'est pour ça qu'il dit « j'aurais dû rincer le couteau ».
Oh, bon, d'accord.
Voilà. En fait, il se balade avec la tête de sa femme dans le carton à chapeau. Voilà. Donc ça, c'est tout l'humour aussi de Francis Blanche, qui peut être aussi un humour un peu humour noir, un peu grinçant, un peu... Voilà, mais qui est...
Ah oui, il y avait...
Où les gens se font avoir à la fin par la chute, en fait.
Oui, il y avait l'histoire aussi d'un petit mot dans la cuisine, là.
Ah oui, je la chante. Le mot de billet.
J'ai réchauffé un serpent, ou je ne sais plus, dans mon cœur.
Oui, en fait, le personnage rentre chez lui, il ne trouve pas sa femme, il y a juste un petit mot de billet qui est posé sur la cuisinière, il ne veut pas le lire, puis donc finalement, il se suicide, le pauvre gars. Et puis, les voisins débarquent dans la maison et ils lisent le petit mot de billet, et c'est juste écrit « Fais réchauffer les patates, je suis au cinéma du coin en train d'aller voir Edwige Feuillère. » Voilà. Et là, on retrouve Baudelaire. Hein, c'est voilà, vraiment...
Absolument.
Oui.
Non, mais voilà. Donc, il y a effectivement quelques chansons aussi qui ne sont pas liées forcément à la musique classique dans le programme.
Ah oui, d'accord. Voilà. Moi, j'aime bien celle-là, l'histoire du mot de billet.
Le mot de billet, oui. Qui est un peu chanson réaliste, qui fait penser un peu à une chanson réaliste, un peu... Oui.
Oui, oui. Bah, il avait lu Baudelaire, c'est certain, Francis.
Oui, c'est sûr.
Ah, ça, il n'y a pas de doute, ouais.
Et bilatéralement, comme disait Pierre Dac.
Ouais, ça donne envie, hein, franchement. Moi, malheureusement, je ne serais pas là, je serais à S ces jours-là.
Ah,
mais
vous serez dans la patrie de Francis Blanche.
Exactement. Ah,
parce qu'il est enterré à S.
Il est enterré à S, ouais. Oui, voilà. Bon, c'est pas... Et donc... Alors, c'est une petite tradition, je ne sais pas si... Si on n'est pas du tout dans le contexte d'une salle de théâtre, mais il faut savoir qu'on va fêter les 45 ans de Radio Libertaire, une chose comme ça. Oui, on est quand même, commence à prendre un peu de. On est comme du bon vieux vin, quoi. Enfin, on est. Donc, déjà, on fête l'anniversaire, on va le fêter toute l'année, hein, jusqu'en 2027, non ? Je ne sais plus, enfin bref. Alors. Oui, la petite tradition, c'est que nos invités, ils disent in live un texte. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous...
Oh ben, je peux vous dire, puisque j'ai je peux vous dire le berger, par exemple, que je donne dans ce récital, qui est donc un poème...
bucolique, on va
bucolique,
dire.
Bucolique, voilà, on peut le dire. C'est un poème bucolique. Le berger... Écoute le vent. Le berger compte les étoiles. Le berger regarde le temps grisailler son manteau de toile. Le berger confie son troupeau à l'épaule de la montagne. Le berger joue de son pipeau. La voix du torrent l'accompagne. Mais, par les longues nuits d'été, couché seul sur le dos, dans l'herbe, compagnon de l'éternité, le berger, s'emmerde.
Voilà. Ah, c'est vrai, hein, le pauvre.
Alors ça, on le donne avec du Debussy en dessous au piano. Ah, oui. Alors ça donne une ambiance. Voilà, c'est ça. Oui.
C'est bien. Ouais. Alors, bon, donc vous jouez le 4 et le 5 septembre.
4 et 5 septembre, oui.
Et vous, vous allez jouer le Marchand de Venise aussi.
Alors, je le joue même ce soir. J'ai une représentation ce soir.
C'est ça.
Je joue ce soir. En fait, on a commencé les culturels de Bagatelle fin juillet avec Volpone de Ben Jonson, que nous avons joué jusqu'à la semaine dernière. Et puis depuis le 18 août jusqu'au 30 août, nous jouons Le Marchand de Venise de Shakespeare dans une mise en scène et une adaptation de Karine Montag, donc qui est la directrice des culturels de Bagatelle.
Voilà. Ah, d'accord.
Avec une très belle distribution, c'est en costume d'époque, donc je peux vous assurer que nous n'avons pas froid. Voilà, mais le cadre est vraiment magique parce que c'est cette orangerie de Bagatelle. D'abord, pour s'y rendre, c'est vrai qu'on marche un petit peu dans le parc, et puis c'est déjà un premier voyage presque dans le temps. Et puis on arrive dans cette orangerie qui est face à la roseraie, et c'est on a l'impression d'être à des kilomètres de Paris. Oui. Et c'est vrai que c'est un moment assez exceptionnel.
Ah, d'accord. Et vous interprétez quel rôle ?
Alors moi, j'interprète trois rôles dans le Marchand de Venise. Dans Volpone, je jouais le rôle de Volpone, mais là, j'interprète trois rôles. Je joue d'abord la nourrice, Nerissa.
Vous êtes déguisée en femme ?
Je suis en femme, tout à fait dans l'esprit shakespearien, puisque vous savez qu'à l'époque de Shakespeare,
les femmes ne jouaient pas,
c'était les hommes qui jouaient les rôles de femmes. Donc je fais une nourrice, bon, comme vous pouvez, là on ne voit pas évidemment à la radio, mais enfin qui est quand même costaude, quoi, enfin, on voit qu'elle est bien charpentée quand même comme nourrice. Hein.
C'est la nourrice
traditionnelle, la nourrice. Bien, voilà. Je joue ensuite Salarino, qui est qui fait partie de toute la bande de copains, qui est un garçon pas extrêmement fufute. Et puis je termine avec un très vieil avocat pour la scène du tribunal, la scène finale, un très vieil avocat, Bellario, qui est un peu gâteux, mais pas si gâteux que ça, puisqu'il fait quand même gagner le procès. Voilà.
Ah oui.
Voilà.
Oui.
Et on a une très belle distribution. Alors on est nombreux. Alors je ne vais pas citer tout le monde, mais vraiment c'est une très belle distribution qu'a réunie Karine Montag pour ce Marchand de Venise.
Oui, le Marchand de Venise. Moi, il m'avait toujours ému, ce Marchand de Venise. Je parle du personnage.
Oui, eh ben, c'est extrêmement touchant, mais c'est surtout très d'actualité, en fait.
Il y avait du racisme.
Du racisme, mais ça va au-delà du racisme, en fait. C'est surtout, effectivement, l'appréhension de... Oui, alors on peut appeler ça racisme, l'appréhension de l'autre, la compréhension des différences. Et le monologue de fin de Shylock, c'est Patrick Courtois qui joue le rôle de Shylock. C'est formidable, quoi. C'est très, très émouvant.
Oui, c'est vrai que je parle de racisme. Bon, mais ça peut être... Là, c'était contre les Juifs. Un peu.
C'est curieux, parce qu'en fait, c'est une pièce qui, effectivement, a une... Un peu une... comment dit-on je trouve plus le mot, pardon.
Une consonance,
voilà. Enfin, on considère que c'est une pièce un petit peu antisémite de Shakespeare.
Non, c'est le contraire.
Mais c'est le contraire. Je dirais que c'est même plutôt une pièce anti-chrétienne, anti-catholique.
Oui, oui, oui.
Parce que les personnages vraiment pas peu sympathiques dans la pièce, c'est plutôt les catholiques.
Oui, bien
en
sûr.
En l'occurrence. Et il s'en sort plutôt bien, en fait. Puis il ne faut pas oublier, dans le contexte de l'époque, où il y avait le ghetto juif à Venise, on fermait les portes tous les soirs, ils ne pouvaient pas sortir, etc. Enfin, voilà. Mais ça reste, et curieusement, ça reste une comédie, parce que tout ça est quand même traité d'une façon non pas légère, mais qui peut, par certains détours, qui peut faire sourire. C'est pas une tragédie, hein, le Marchand de Venise.
Non,
parce que parfois c'est monté très tragique.
Il y a quand même quand le Marchand de Venise, Shylock, dit plus. J'ai un corps comme vous,
je souffre comme vous, c'est
comme
le monologue
public,
de femme,
le monologue.
Il dit je suis juif, l'État de Venise me reconnaît comme tel, mais je mange comme vous, je suis malade comme vous, etc.
C'est quelque chose qui m'émeut beaucoup quand je l'entends.
Bien sûr, ouais, je pense que dans l'actualité en ce moment, il y a vraiment des répercussions.
C'est pour ça que cette pièce m'intéresse toujours, quoi. Je veux dire, au-delà de du faste, des costumes, etc.
Bien sûr, bien sûr.
Il y a quand même un fond quand même qui est assez impressionnant, oui. Oui.
Ça permet de méditer quand même un petit peu quand on en sort. Oui.
Voilà, donc c'est pas encore commencé.
Si, ça y est. On joue déjà depuis le 18 août.
Ah d'accord, oui, oui. D'accord.
En pleine canicule alors.
En pleine canicule.
Donc ce soir c'est à
20h.
Ah voilà. C'est pour ça que j'avais pensé que vous passiez avant dans l'émission pour que vous puissiez
c'est très gentil.
Vous mettre dans voilà. condition oui, oui. pour
que je reprenne le physique de Nerissa surtout.
Voilà. Bon alors donc c'est jusqu'au
30 août
de tous les jours.
C'est sauf le lundi.
Sauf le
on joue le mardi à 20h, le mercredi, jeudi, vendredi à 20h45, le samedi à 20h et le dimanche à 17h30.
Ah ben voilà. C'est ça.
Et puis le Francis Blanche, donc c'est le 4 à 20h et le 5 à 17h.
Voilà.
Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça.
Eh ben, je vous souhaite tout le succès que vous méritez.
Merci beaucoup.
Et c'est très gentil d'être venu présenter ce spectacle.
Et merci pour les cadeaux. Voilà, comme ça, j'ai fêté mon anniversaire un jour avant, donc je suis très touché. Ah
oui. Comme je ne veux pas qu'il y ait de jaloux, je vais vous en prie.
Ah, c'est adorable. Merci beaucoup.
Voilà, comme ça, on va pouvoir préparer ça tranquillement.
Oui, voilà. Voilà. C'est pas obligé de se téléphoner.
Voilà, c'est ça.
Pour l'aréna.
Pour l'aréna, oui.
Eh bien, en entracte, on va passer le texte de Jean-Marie Blanche. Il dit un texte qui se trouve dans Mon oursin et moi.
Ah,
il me semble.
Et tu le tendrement quand même. Hein.
Amour toujours. Quand je vous ai connu, vous aviez les bras blancs et cet air ingénu qui m'impressionnait tant. Un côté provincial qui vous allait si bien. Des blue jeans un peu sales, encore plus que les miens. Près de vous, Virginie, je me sentais à l'aise. Alors, vous m'avez dit, je vous trouve très doux. Pourtant, il y a peu de garçons qui me plaisent. Moi, depuis cet instant, je pouvais croire à tout. Je vous ai emmené à l'auberge du bois, et vers minuit passé, on est rentré chez moi. Nous avons écouté mes disques de Mozart. Je vous ai raconté ma vie et mes espoirs. Près de vous, Virginie, je me sentais à l'aise. Alors, vous m'avez dit... Vos beaux yeux dans les miens. Maintenant, assez causé. À quelle heure est-ce qu'on baise ? Moi, depuis cet instant, je ne crois plus à rien. C'était de qui ? C'était Francis Blanche. Et une fois, ciao, merci.
Formidable.
Ben voilà, c'est un petit clin d'œil de M. Jean-Marie Blanche.
Ben oui. Avec la voix de son père.
Ah oui, vous trouvez ?
Ah oui, je trouve vraiment. Ah oui, oui.
Tout à fait.
Oui, oui. C'est très touchant.
Oui. Ben oui. Il a une très bonne diction, M. Blanche. Oui. Comme d'ailleurs M. Louis de Bérail.
Merci.
Ouais. Eh bien voilà. Donc, je vais passer la parole à à Louis de Bérail. Oui. Voilà. Pour donc le spectacle sur Baudelaire. Bah, vous êtes tout jeune quand même. Hein,
J'ai 32 ans.
Oh, ça va.
Donc ça va, oui, je ne suis pas encore.
32 ans.
Oui.
Mais c'est jeune encore.
Oui, majeur, c'est vrai, c'est jeune encore.
Vous avez remarqué que moi, elle ne m'a pas dit vous êtes.
J'aurais pu, hein.
Ah, vous auriez
pu, hein.
Jusqu'à demain, oui. Jusqu'à demain, oui.
Ah, d'accord.
Oui, c'est ça.
D'accord. Bon. Bah oui, parce que, je ne sais pas, vous faites jeune quand même, voilà, c'est tout. Ouais. Je suis impressionnée par la jeunesse, moi. C'est normal.
Alors,
hein.
Il fait romantique, très romantique.
Mais oui, c'est ça. Vrai. Alors figurez-vous, quand je vais sur Google,
oui.
Hein, alors il y a plein de petits trucs qui s'affichent, et puis il y a un petit machin qui se met IA, IA. Alors par curiosité, je suis allée sur IA, vous concernant, Hein, pour vous.
Oui, oui, non, mais j'ai vu cette nouvelle chose, ça apparaît systématiquement.
C'est marrant. Oui. Alors, par curiosité, et qu'est-ce qu'il met Louis de Bérail, connu pour son allure de dandy romantique.
Ah oui, ça, c'est, bah non, c'est vraiment l'IA, c'est pas moi qui ai inscrit ça, parce que
moi, hein.
Je suis pas contre cette description, mais, non, c'est pas moi, je vous confirme que c'est l'IA, oui.
Ah, c'est l'IA.
Non, c'est sûr que c'est pas un contre-emploi, hein, Baudelaire.
Non,
il y a une vraie
filiation. Je me suis dit, bon, on va vérifier.
Oui. Ça va, j'ai le physique de mes idées et les idées de Baudelaire.
Bon, voilà, bon... de toute façon, c'est vrai que Baudelaire, c'était un dandy. Enfin, on dit que c'était un dandy, mais il n'était pas que ça.
C'était quand même un dandy, oui.
Il
aimait beaucoup la superficialité, l'apparence,
oui.
Toujours se distinguer des autres. Donc non, il était réellement dandy dans la manière d'être, d'agir en société, absolument, oui.
Ouais. Bon, on n'a pas de photo de lui jeune, hein, Baudelaire, et pourtant, il est mort pas vieux. Mais bon.
J'en ai vu une récemment. Ouais. Alors, il est caché un peu. Il met la main comme ça. On sent, ça devait être peut-être les premières photos. Ou alors, c'est un interprète. Il me semble avoir vu une photo de lui plus jeune, 35 ans, quelque chose comme ça.
Ouais. Mais alors, ce que j'ai bien aimé dans le spectacle Petit poème en prose, j'ai pas vérifié à quel âge exactement il a écrit ça, mais enfin bon. Ce que j'ai bien aimé. C'est que, il le dit lui-même d'ailleurs, je ne sais plus où, il écrit plus librement. J'aime bien son style parce que ce n'est pas un style trop. Comment on appelle ça on sent les humeurs qui passent, toutes les humeurs. Enfin, les humeurs du jour. Il y a tout un. Comment dire on voit bien que c'est le regard d'un homme. Qui se promène dans les rues de Paris ou qui se promène dans la vie elle-même, qui est très observateur et qui fait coïncider son regard avec aussi son état d'être intérieur, ses propres tourments. Voilà. Et moi, je trouve qu'il a une écriture très moderne. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez.
Absolument. Alors, il y a une chose intéressante dans ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'il se sentait plus libre. Et c'est totalement vrai, parce qu'il sentait la nécessité de trouver une souplesse et une énergie pour décrire la ville moderne. Et donc, il a dû créer cette forme-là. En revanche, il dit aussi que c'était pour lui très compliqué d'écrire de la prose.
Oui.
Parce que c'est justement toute la culture classique qu'il avait accumulée.
Oui, très différent des poèmes des Fleurs du Mal.
C'est très différent. C'est une nouvelle manière d'écrire, donc c'est une manière de réapprendre à écrire, à sentir, etc. Donc il disait qu'il voulait en faire 100 à l'origine. Il a réussi à en faire 50, mais c'était aussi lié à sa maladie.
Oui.
Bon, à la fin, c'était beaucoup plus compliqué d'écrire, donc il a dû s'arrêter. Enfin, il est mort. Mais il a quand même finalement, avec le temps, trouvé effectivement cette liberté. Et c'était après les Fleurs du Mal. Sa grande création, enfin, c'est ce qu'il disait.
Oui. Parce qu'en fait, il était journaliste aussi, critique,
oui, bien sûr.
D'art, journaliste. Oui. Donc, dans le fait d'être un journaliste, aussi, l'écriture n'est pas la même que quand on écrit des poèmes, c'est pas la même chose. Donc, il avait déjà quand même cet esprit un peu caustique, un peu humoristique, enfin, plein d'ironie aussi, qu'il utilisait pour écrire ses articles de critique d'art ou journaliste.
Oui, absolument. Oui,
donc, il avait déjà expérimenté une autre façon d'écrire.
Oui. Ah oui, non, mais ça c'est vrai. Mais la particularité des poèmes en prose, c'est qu'ils sont très condensés, contrairement à peut-être à la presse, où on peut peut-être laisser aller sa plume plus facilement, sans se poser trop la question de la forme. Enfin, pas autant qu'en poésie, je pense. Donc, non, c'était un vrai défi et il l'a réussi à merveille. Enfin,
Et puis, c'est très varié. Hein,
Ah oui.
On peut relire ça, c'est très varié. Hein, il y a des poèmes. Il y a le poème Le chat que Anne vous a donné là. Mais
oui.
Sinon,
c'est quelqu'un de génial.
On passe de. Alors, vous allez me dire comment vous avez fait le choix des textes que vous avez choisis. Parce qu'il y a des textes quand même, j'en ai trouvé quand même, certains étaient violent, quelque part. Enfin, violent, un peu provocateur. Les bons chiens, par exemple. Les bons chiens, le texte Les bons chiens, bah, c'est pas...
Les bons chiens, c'est peut-être... alors, c'est le plus provocateur, mais c'est le moins choquant pour moi.
Ouais.
Le plus choquant, c'est vraiment Assommons les pauvres, qui est très connu pour voilà, cette
oui,
volonté
bah,
de
celui-là,
choquer.
Il est très choquant, effectivement. Mais justement, je l'apprécie, celui-là, parce qu'au moins, il révèle sa révolte vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres, quoi. C'est le sort des et puis l'histoire du vétrier, là. L'histoire du vétrier. Ouais. Il entend un vétrier qui se promène dans la rue. Ça fait beaucoup de boucan. Il l'appelle. Et lui, il habite dans une chambre de bonne, certainement. Et il l'appelle et il grimpe, le pauvre vitrier, avec toute sa cargaison de vitres. Et puis, il le bouscule. Parce qu'il lui dit, non, vous n'avez pas les vitres que je veux, moi. Je veux des vitres en rose, en bleu. C'est quoi, ça? Allez, fous le camp. Enfin, c'est sa façon de... Et alors, l'autre, il dégringole l'escalier. Et alors, il est devenu très mauvais. Mais c'est du Baudelaire, hein. C'est-à-dire que Baudelaire, il devait avoir un petit côté mauvais aussi. Alors, il prend un pot de fleurs, il fait en sorte que le pot de fleurs, il tombe sur la cargaison des vitres.
Ah oui, sympathique. Oui,
et après, il lui crie après, la vie en rose, la vie en rose. Enfin, des choses comme ça. Alors ça, c'est, oui, c'est choquant, si on veut. Mais en même temps, c'est pas hypocrite, quelque part. Je veux dire, c'est ça. C'est, que,
c'est pas complaisant.
Non, c'est pas complaisant. Voilà. C'est ça. C'est pas qu'il veut. D'ailleurs, il critique la personne qui fait ça, quand même. Il perd pas tout à fait le nord. Hein.
Ah oui,
il
non,
a,
bien
il
sûr.
Dit pas qu'il adhère à ce genre de comportement. Mais c'est vrai, qui n'a pas eu dans sa. Parfois, qui est en colère, un peu énervé, il n'a pas ses gestes, ce ressenti de haine. Ouais. Ça peut exister quand même, non? Vous n'avez jamais connu ça, vous? Non, bon. Vous ne pourrez pas être comédien. C'est pas bon, c'est pas grave. Mais bon, ça fait partie de l'âme humaine, des mauvais sentiments, il me semble. Non? Enfin bon, je sais pas que. C'est pas que je sois pour le mal, mais je trouve qu'il explore un peu la nature humaine. Il va chercher chez lui. Il regarde chez les autres. Et je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant comme exploration, comme matière. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est un peu choquant, mais en même temps, bon... Et d'ailleurs, il paraît qu'il s'est brouillé avec son éditeur, Arsène Houssaye. Parce que Arsène Houssaye, qu'il a publié dans les journaux, là...
Oui, oui, les poèmes en prose, une vingtaine de poèmes.
Eh bien, il y a certains qu'il n'a pas voulu. Il n'en a pas voulu parce qu'il avait peur de choquer ses lecteurs.
Oui, oui, oui.
Alors du coup, il s'est brouillé avec... Baudelaire s'est brouillé avec son éditeur.
Oui, bah, il devait se douter qu'il y aurait des problèmes après l'histoire avec les fleurs du mal. J'imagine que... Bon, il était prévenu, quoi. Il savait que dès que Baudelaire cherchait à provoquer, il réussissait, c'était dans le mille.
Voilà. Donc, effectivement, il allait très loin.
Ah oui, oui, il allait très loin. Mais pour moi, c'est vraiment... de la provocation, dans le sens où il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, évidemment. Et la solution universelle, ce n'est pas d'assommer les pauvres pour les réveiller et pour mettre fin à la misère, évidemment.
Oui. C'est un peu comme subjective. Francis Blanche, hein, qui fait de la provocation aussi.
Bien sûr. C'est une simple expérience subjective pour prouver qu'il y a des solutions qui sont vraies, qui permettent de regarder l'autre tel qu'il est, et pas simplement le conforter dans sa médiocrité ou dans sa misère. Et quand il dit « Assommons les pauvres », c'est ça. C'est qu'en fait, on a tous besoin, à un moment donné, quand on suit une pente terrible et de souffrance, de quelqu'un qui vient nous réveiller et nous secouer. Sinon, on finit par sombrer. Donc, moi, j'aime bien cette méthode, mais il ne faut pas en faire une règle, c'est certain. Et je ne crois pas qu'il voulait en faire une règle.
Non. Non, mais je me souviens de Francis Blanche. Alors, c'est une anecdote. Il habitait rue de la Félicité. Et puis, il faisait des repas avec ses copains, ses copines. Et puis, des bons repas. Hein. Puis, un jour, il a ouvert grand des fenêtres. Et puis, il a dit, venez les pauvres, regardez comment les riches se goinfrent et tout ça. Ah oui, pour de vrai. Hein. Ah oui, il avait cet esprit-là. Voilà. Et dans le texte de Baudelaire, à un moment donné, il parle de la goinfrerie Baudelaire.
Absolument, oui, les yeux des pauvres.
Les yeux des pauvres.
Absolument, et d'ailleurs, je le dis après Assommons les pauvres, pour justement montrer cette ambivalence et cette contradiction permanente chez lui. C'est-à-dire qu'il est capable d'une grande cruauté, d'une grande violence, et derrière, d'une grande empathie et compréhension pour la misère. Donc, il est complexe et retors et tordu, et ce qu'on veut.
Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de lire des textes de Baudelaire ? Parce que j'imagine que Baudelaire, vous l'avez dans la peau depuis longtemps.
Alors, je l'ai dans la peau depuis longtemps, absolument. Comme beaucoup, je l'ai découvert au lycée. Mais j'avais eu simplement des impressions très fortes et singulières en le lisant, sans savoir vraiment pourquoi je l'aimais. Et je l'ai redécouvert en écoutant beaucoup Léo Ferré, qui a repris énormément de poètes du 19e, Aragon, ensuite 20e, etc. Et là, je l'ai vraiment redécouvert. Et je pense que je l'ai mis en scène et je le joue un peu de manière inconsciente parce que je suis tellement fan de Léo Ferré, mais je trouve que je chante mal. Donc il fallait trouver un moyen de mettre de musique et de faire comme Léo Ferré, de jouer Baudelaire, mais bon, en chantant parfois, parce que parfois j'essaye de pousser la voix et de pousser le jeu jusqu'au chant, mais je pense qu'inconsciemment il y avait cette chose-là de faire comme mon idole, oui. Mais ça, je le comprends maintenant.
Ah, d'accord. Ouais, parce que c'est très intense, hein, le spectacle. Et le fait que c'est une belle idée, c'est d'associer une pianiste ou un pianiste. Enfin, je ne sais pas, c'est une alternance.
Oui, c'est une alternance, oui. Une pianiste et un pianiste. Mais à la rentrée, ce sera deux pianistes.
Ah, il y aura deux pianistes.
Oui. Oh non, deux pianistes en alternance. Enfin, simplement, oui, la pianistes. Fille est partie, un autre garçon est arrivé.
Ah, d'accord. Ouais. D'accord. Alors, moi, je ne suis pas très musicienne. Qu'est-ce qu'il joue comme ses compositions personnelles ou,
Alors, moi, la seule ligne que... Alors, moi, c'était simple. Je voulais simplement qu'il y ait une continuité émotionnelle entre les poèmes et la musique. Mmh. Je ne voulais pas imposer un répertoire, etc. Mais j'avais quand même dans l'idée que le répertoire romantique, impressionniste, est très adapté à la poésie, à cette poésie-là. Kim Bernard, qui est un des pianistes, lui, faisait que de l'improvisation. Mmh. Très doué pour ça, donc... On travaillait ensemble, je lui disais alors là, non, plus cette émotion, plus bas, plus haut. Et avec l'autre pianiste, elle faisait moitié d'improvisation, moitié de répertoire. Mm-hmm. Chopin, Rachmaninoff et Liszt, justement. Et d'ailleurs, il y a un poème en prose qui est un éloge à Liszt à la fin du recueil. Il était très admiratif de Liszt. On comprend pourquoi. Enfin,
oui.
On écoute Liszt.
Oui, ça va très bien ensemble. Hein. J'ai bien aimé hein, les moments de musicaux. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que j'ai trouvé... comment dire ? C'est vrai que c'est très dense. Et puis il y a le côté lyrique aussi. Mais c'est pas évident parce que il y a le moment où c'est très lyrique, c'est très fort, et puis il faut quand même descendre. Et ça, vous faites très bien, ça. Vous n'allez pas sur... Vous ne, c'est pas hystérique, quoi. C'est jamais hystérique. Oui, oui. C'est, il faut que ça soit... comment dire... On sent bien les mouvements ou le mouvement qu'on peut donner à quelque chose qui est... à une émotion qui est forte, quand même. Mais il ne faut pas que ce soit... Je veux dire, il faut mesurer, quoi. Je veux dire, il faut... comment dire...
Peser,
oui, c'est ça. Et c'est du travail, j'imagine.
Oui, bah, vous m'avez demandé pourquoi j'avais fait ces choix de textes. Et évidemment qu'ils rentraient... Enfin, je choisissais les textes parce que je les aimais, évidemment. Mais je cherchais aussi à du contraste et essayer aussi de rassembler toute la complexité baudelairienne, c'est-à-dire d'essayer de trouver une cohérence et une homogénéité. Ce qui n'est pas évident. Enfin, de toute façon, quand on fait une sélection, on est toujours un peu à côté, ou en dessous, ou au-dessus. Enfin, j'essaie de ne pas être au-dessus. Mais...
Oui, c'est ça que j'ai bien aimé. C'est qu'on entend la gravité, on entend la passion, et aussi, de temps en temps, la légèreté aussi. Il y a plusieurs...
Strates.
Donc c'est assez riche, quoi. Ça donne envie de lire Baudelaire, de rentrer dans son univers. Et j'ai trouvé alors peut-être que c'est très travaillé de la part de Baudelaire, mais j'ai trouvé qu'il y avait une écriture très 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 moderne, parce que c'est pas trop. Il y a certains poèmes en prose, enfin, il appelle ça des poèmes, je pourrais presque dire des nouvelles, Oui. C'est ça, c'est des nouvelles.
D'ailleurs, il y a même un poème qui fait une dizaine de pages qui pourrait être une nouvelle. Oui, oui.
Absolument. Ouais, voilà. Comment dire, c'est pas trop intellectualisé. Ça reste très simple finalement. Enfin, je veux dire, c'est pas compliqué. C'est pas tellement compliqué. Enfin, je veux dire, il exprime, pour moi, des états d'âme, des états
absolument, oui.
Sans trop de descriptions. Il y a cette légèreté d'ailleurs qu'on retrouve chez, enfin cette légèreté, c'est pas dans le sens de léger, etc., oui, mais oui. Qu'on retrouve aussi chez Francis Blanche dans Mon oursin et moi.
Tout à fait.
Ouais, on retrouve ça. C'est-à-dire parce que moi les poètes, hein, j'aime bien les poètes, hein, c'est pas le problème, mais ceux qui sont trop, il faut de tout pour faire un monde, hein, mais ceux qui sont trop, comment dire.
Hermétique
ouais. Ou très cérébraux, ça existe aussi. Ça existe aussi. Ça me fatigue, quoi. Tandis que là, au moins, je lis ça et je respire. Et voilà. Et parfois, je me promène dans Paris, je crois, et je me dis, mais tiens, Baudelaire, il aurait pu écrire quelque chose là-dessus.
Ouais,
voilà,
absolument.
C'est ça. C'est des choses. Simple, quoi.
Est-ce que tu te souviens d'une poésie de Baudelaire que tu aurais apprise à l'école? Alors, moi, c'était le Goéland, mais alors je ne pourrais plus vous la réciter. Le Goéland.
Ça, on a tous appris ça.
Ah, oui. Non, l'Albatros.
L'Albatros.
Ah oui, il y a un problème. L'Albatros.
Je n'ai pas dit le Canari, ça va. L'Albatros, voilà.
Ouais, ouais. Mais bien sûr, moi, celui que j'aimais, mais heureusement, je ne le connais pas par cœur, La mort des amants. Celui-là, je l'adore.
Ah oui,
La mort des amants, je trouve ça sublime. Et pourtant, je ne suis pas romantique. Hein. Mais j'adore La mort des amants. Je ne sais pas pourquoi.
Parce qu'ils sont morts. Et puis voilà, et puis c'est bien fait.
Mais non, ce n'est pas parce qu'ils sont morts. Non. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas morts, en fait.
Ah, voilà.
Mais c'est le titre. La mort des amants, ça veut dire que ça les éternise, quelque part.
Voilà, comme Roméo et Juliette.
Ouais, c'est très beau. Ouais. Alors, tu as donné un poème à...
Ah oui, le chat. Voilà. Ça va être très bien dit. Attention.
Viens, mon beau chat, sur mon cœur amoureux. Retiens les griffes de ta patte et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux, mêlés de métal et d'agate. Lorsque mes doigts caressent à loisir ta tête et ton dos élastique et que ma main s'enivre du plaisir de palper ton corps électrique, je vois ma femme en esprit. Son regard comme le tien, aimable bête, profond et froid, coupe et fend comme un dard, et des pieds jusqu'à la tête, un air subtil, un dangereux parfum, nage autour de son corps brun.
Ah oui,
bravo.
Ah oui.
Moi, chez Baudelaire, moi j'aime beaucoup Mylène Farmer, elle avait fait l'horloge en chanson.
Oui.
Et après, c'était très compliqué parce qu'à l'époque j'étais collégien. Et à un moment, dans le texte, Baudelaire il dit: mon gosier de métal parle toutes les langues. C'est tout des. Enfin, j'avais pas l'habitude de toutes ces phrases-là. C'était très compliqué pour moi à comprendre l'horloge en fait.
L'horloge, oui. Mais il y en a un, c'était Les Fleurs du Mal.
Oui, dans Les Fleurs du Mal,
oui, parce qu'il a repris beaucoup.
Et dans les petits poèmes en prose, il y a l'horloge aussi.
Ouais. Absolument, parce qu'au début, il se rodait. Donc, il prenait les thèmes des Fleurs du Mal et il tentait d'écrire en prose avec les mêmes thèmes. Mais en fait, quand on lit les poèmes, les doublons, ils sont très différents. Ça n'a rien à voir.
Oui. Bah, si vous voulez, vous pouvez le dire. Hein.
Bah, l'horloge.
Oui.
Voilà. Attendez, je vais le retrouver.
Et dans la chanson, elle le chante pas, elle le parle en fait. Hein.
Ah bon?
Ouais. Elle le chante pas, elle le dit comme ça.
Les Chinois voient l'heure dans l'œil des chats. Un jour, un missionnaire, se promenant dans la banlieue de Nankin, s'aperçut qu'il avait oublié sa montre et demanda à un petit garçon quelle heure il était. Le gamin du Céleste Empire hésita d'abord, puis se ravisant, il répondit « Je vais vous le dire ». Peu d'instants après, il reparut, tenant dans ses bras un fort gros chat. Et le regardant, comme on dit, dans le blanc des yeux, il affirma sans hésiter « Il n'est pas encore tout à fait midi. » Ce qui était vrai. Pour moi, si je me penche vers la belle Féline, la si bien nommée, qui est à la fois l'honneur de son sexe, l'orgueil de mon cœur et le parfum de mon esprit, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, dans la pleine lumière ou dans l'ombre opaque, au fond de ses yeux adorables, je vois toujours l'heure distinctement, toujours la même, une heure vaste, solennelle, grande comme l'espace, sans division de minutes ni de secondes, une heure immobile qui n'est pas marquée sur les horloges. Et cependant légère comme un soupir, rapide comme un coup d'œil. Et si quelque importun venait me déranger, pendant que mon regard repose sur ce délicieux cadran, si quelque génie malhonnête ou intolérant, quelque démon du contre-temps venait me dire « Que regardes-tu là avec tant de soin ? Que cherches-tu dans les yeux de cet être ? Y vois-tu l'heure mortelle prodigue et fainéant ?» Je répondrai sans hésiter « Oui, je vois l'heure. Il est l'éternité. » N'est-ce pas, madame, que voici un madrigal vraiment méritoire et aussi emphatique que vous-même ? En vérité, j'ai eu tant de plaisir à broder cette prétentieuse galanterie que je ne vous demanderai rien en échange.
Bravo. Ah. Bravo. Eh oui. C'est... Ça fait plaisir, quoi, d'entendre. Ouais, oui, oui. Ah, il faut reconnaître qu'il a une belle voix, quand même.
Oui, il a une très belle voix.
C'est des textes qui ne sont pas faciles, en plus. Hein, ça, c'est...
Oui, c'est vrai, ce n'est pas facile, mais j'imagine... c'est pas besoin de chercher à comprendre, finalement. Il faut rentrer dedans. C'est comme, imaginez que vous rentrez dans une maison, vous la connaissez pas. Hein? On vous dit, je vous invite. Ça peut être une belle maison, ou ça peut être un taudis, mais enfin, ça peut être ce qu'on veut. Vous la connaissez pas, vous rentrez, et là, vous apprivoisez, vous acclimatez. On n'est pas obligé de comprendre tout de suite le poème, à mon avis. Hein? Il faut même pas l'apprivoiser. Moi, je suis persuadée que ce poème, l'horloge ou d'autres, depuis l'âge de 15 ou 20 ans jusqu'à mon âge aujourd'hui, on le ressent pas chaque fois de la même façon. Mmh. Voilà. Il y a ça aussi. Peut-être qu'à 20 ans, je sentais certaines choses, et puis maintenant, beaucoup plus âgée, j'en sens d'autres. Mais on ne vit pas forcément les mêmes choses, parce que sinon c'est pas amusant, hein, si c'est toujours revivre la même chose. Ça, c'est ce qui fait que ce sont des poèmes, c'est porte ouverte quelque part, c'est porte ouverte. Donc il faut pas avoir de complexe pour entrer dans une poésie. Il faut pas se dire je veux pas comprendre ou ceci. Il faut y rentrer. Moi, ça m'arrive de rentrer dans un texte et de pas comprendre tout de suite. Alors je me dis bon, ben c'est pas grave. J'y reviendrai. Voilà. C'est ça, il ne faut pas avoir de complexe. Je pense que c'est bête. Enfin, ce n'est pas bête, mais je veux dire... non, je pense que le poète, ce qu'il a envie quand même, c'est qu'on le lise. Hein, quand même. Hein. Donc, s'il pense que les gens ne veulent pas le lire parce qu'ils ont peur de ne pas comprendre, ben, le pauvre, il va être frustré. Hein, c'est ça quand même.
Bien sûr. Oui, c'est des compagnons de voyage.
C'est des compagnons de voyage. Voilà. Et la poésie, c'est... Enfin, la poésie, les poètes... Je ne sais pas, parce que parfois on dit on est poète, mais il y a les poètes des rues, il y a la façon de vivre, un peu poétique. Mais moi, je ne vois pas le poète... derrière son antre et sa vitre, avec un écriteau poète, enfin je veux dire, hein, c'est pas. Je me dis même, n'importe qui peut se dire poète quelque part. Hein, c'est pas. Mais il ne faut pas que ça soit un costume. Hein, il faut dire. Il ne faut pas que ce soit un costume.
Hein. Oui, absolument.
Ouais. Bon, je pense que les comédiens, c'est normal qu'ils défendent leur profession. Il dit, je suis comédien. Mais en même temps, je préfère le mot artiste. Parce que ça peut être un qualificatif. À la fois une profession et un qualificatif. Moi, je suis un peu artiste.
Voilà. J'aime bien dire artisan.
Artisan aussi.
Ah, c'est joli aussi.
Je trouve que c'est un très joli mot, artisan.
Artisan aussi. Oui.
ça anoblit un peu.
Voilà,
plus concret.
Tout à fait.
Voilà. Comme je ne veux pas vous retenir. Hein, parce
non,
que
je vais être obligé de vous. De
voilà.
Vous mais en tout cas, merci beaucoup pour votre invitation.
Bah, c'est moi.
Et puis, écoutez,
c'est un plaisir de vous rencontrer.
Moi aussi. Longue vie à Baudelaire, à Francis Blanche, à Pierre Dac. Voilà.
Bah oui.
À tous nos maîtres.
Voilà. En tout cas, aujourd'hui, vous leur avez rendu hommage.
Un bel hommage, oui.
Merci à vous.
Merci
à vous.
Au
revoir.
Je vous raccompagne.
Ça y est, ils sont morts, les amants.
La mort sublime. Des amants. Ouais.
La mort des amants.
Oui, ouais, ouais, c'est beau, oui. Et alors, pour revenir au spleen de Paris, les petits poèmes en prose, vous avez donc préféré interpréter ces petits poèmes que les poèmes eux-mêmes. C'est plus...
Pardon, j'ai pas...
Je veux dire, les fleurs du mal.
Ah, les
entre les fleurs du mal
et les petits poèmes en prose.
Oui.
Presque pour la même raison. Je vais vous lire ce que disait Baudelaire justement à propos des petits poèmes en prose. Et vous allez comprendre. J'ai une petite confession à vous faire. C'est en feuilletant pour la 20e fois au moins le fameux Gaspard et la nuit d'Aloysius Bertrand, un livre connu de vous, de moi et de quelques-uns de nos amis, n'a-t-il pas tous les droits à être appelé fameux ? Que l'idée m'est venue de tenter quelque chose d'analogue et d'appliquer à la description de la vie moderne, ou plutôt d'une vie moderne et plus abstraite, le procédé qu'il avait appliqué à la peinture de la vie ancienne, si étrangement pittoresque. Quel est celui de nous qui n'a pas, dans ses jours d'ambition, rêvé le miracle d'une prose poétique, musicale, sans rythme et sans rime, assez souple et heurtée pour s'adapter aux mouvements lyriques de l'âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience. Et donc, c'est tellement souple, ça laisse tellement de liberté pour le jeu, je trouve les textes très théâtraux.
Oui, bien sûr.
Alors, j'aime bien jouer des alexandrins, mais c'est vrai qu'en lisant ça, c'était vraiment trop charmant.
C'est sûr. Et ce qui est bien, c'est que on n'a pas l'impression que vous récitez. Voilà. Parce que ça m'est arrivé, malheureusement, de voir des spectacles sur Baudelaire. Tous les comédiens ne sont pas forcément hyper doués. Et parfois, on sent la récitation. Et là, ce qui est bien dans votre spectacle, c'est qu'on ne sent pas du tout là, que c'est récité. On a l'impression que c'est du vécu, quoi. C'est vrai, quoi. Ça donne cette impression qu'on rentre. Et puis, je crois que c'est peut-être parce que j'aime bien Baudelaire, mais je suis un peu familiarisée à ses textes, quand même. J'ai de l'empathie. Je ne sais pas comment exprimer ça. Mais je sais de quoi il parle, quelque part.
Oui. Non, mais ça fait écho. Et je comprends parfaitement.
Il y a toutes sortes de poèmes comme ça. Bon, alors chacun son style. Vous avez un style, je ne serais pas vraiment trop le décrire, mais quand même, ça fait très... Il y a une résonance quand même tout de suite très forte. Enfin, je veux dire, c'est on est tout de suite concentré. Il faut se concentrer. Et on rentre quand même dans ailleurs quand même. C'est quand même une découverte. C'est quand même une atmosphère particulière quand même. Hein, on rentre quand même chez Baudelaire quand même.
Malgré tout,
même si ça peut être très proche de nous, c'est quand même du Baudelaire.
Oui. Mais la question s'est posée de savoir est-ce que je tente ou j'essaie d'incarner Baudelaire.
Ah oui.
Et parce que je voulais me grimer, je voulais vraiment l'incarner au plus près. Et donc je me suis posé cette question. Bon, c'était une mauvaise idée, parce que j'ai commencé, de toute façon, on ne peut pas imiter quelqu'un dont on ne connaît même pas la voix,
Oui, et puis vous n'avez pas le physique non plus de Baudelaire.
Non, c'est vrai.
Peu importe. Ouais. Alors, figurez-vous, moi j'ai un fantasme, je vous aurais bien vu en Lautréamont.
Ah bah écoutez, j'aime beaucoup Lautréamont, donc c'est possible qu'un jour je m'y mette et que je fasse un spectacle.
Pour moi, vous avez un visage de Lautréamont. Un petit peu. Enfin, je sais pas. J'ai même pas vu son visage à Lautréamont, mais je l'ai imaginé. Enfin, j'ai peut-être vu.
Oui, j'ai vu des dessins, mais alors je sais pas du tout s'ils sont fidèles.
Oui. Je sais pas si c'est vraiment.
Mais son apparence.
Il avait un petit côté un peu anguleux quand même, un petit peu. Hein. À la fois anguleux. Bon, il était ange et démon, hein, à la fois. Hein.
Très beau. Hein,
double face. Hein.
C'est ça.
mais j'aimais bien un peu Lautréamont, hein, mais ça fait peur. Hein. Franchement, ça fait peur. Tu as lu Lautréamont ?
Non.
Non, non, justement.
Je te conseille pas. Parce que je vais avoir les pétoches, déjà que je ne dors pas bien.
Ou alors commencer ça vraiment avec Baudelaire. Et puis
qui aime bien l'horreur.
Il adore les livres d'horreur.
Ouais. Bah, en fait, grâce à... Parce qu'en fait, Baudelaire m'a aussi amené à Edgar Allan Poe. Parce que... Voilà.
Ah, j'aime énormément Edgar Allan Poe.
Oui, parce que, en fait, j'ai découvert... Je ne savais pas que c'était Baudelaire qui avait traduit. Mmh. Voilà, et j'ai adoré. Sa traduction, elle est incroyable. Hein, donc
bah,
c'est...
Oui, oui, oui. Oh. Je crois qu'il disait qu'il fallait être poète pour pouvoir traduire un poète. Donc il a bien fait.
Ah oui, j'ai vraiment beaucoup aimé. Hein. Donc ça, oui, il y a plusieurs choses qui s'enchaînent. Et, voilà.
Bien sûr.
Alors, l'autre amant, c'est un peu violent. Hein, c'est très violent même, il faut quand même le dire. Mais il y a quand même des... c'est un côté très... comment dire... Je sais pas moi, c'est un côté très moderne aussi. C'est des feux d'artifice de sensations, je sais pas si c'est drogué, j'en sais rien, mais enfin, mais je pense qu'il avait suffisamment d'imagination de pouvoir raconter ce qu'il voyait ou rêvait, parce que parfois c'est un peu cauchemardesque, hein, mais et parfois il y a des beautés, il parle de la beauté aussi, l'autre amant. Là, c'est très intéressant aussi, l'autre amant, mais c'est quand même c'est un peu dur quand même, enfin bon. C'est un peu violent, mais c'est quelque chose qui touche, parce qu'on sait que c'est un jeune homme qui avait même pas 20 ans.
Ou, oui, 23. Ou 20,
et qui est mort à 25 ans, même pas, ou 24 ans. Et il a écrit, juste avant de mourir, des textes qui sont impressionnants, quoi. Je ne sais pas s'il y a d'autres écrivains qui ont écrit comme ça après lui, mais c'est vraiment... C'est très fort. C'est violent parce que on sent que il a fait l'expérience quand même de choses très dures, quand même, malgré tout. Hein. On sait pas, on connaît pas son histoire, mais c'est on sent que son psychisme est assez ébranlé quand même.
Ah oui, oui, oui.
Hein, voilà. Alors bon, c'était, il me donnait l'impression d'être un dandy un petit peu.
Hein. Oui, sûrement. Après, j'ai aucune information sur sa biographie, je sais pas du tout.
Mais non, parce que il est tombé dans la fosse commune, le pauvre. Pourtant, il était le fils de quelqu'un qui avait de l'argent. Mais bon, il est mort à une époque où il était seul, il n'avait pas de famille. On ne sait pas où il n'y a pas de stèle sur l'Otéramont, mais il a été redécouvert. Et c'est quelqu'un pour qui c'est important d'écrire. Et juste avant de mourir, donc, il a publié deux livres, Chant de mal d'aurore, etc. Et il est mort peu de temps après. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui avait... c'était un forcené de la vie. Hein. Pour écrire comme il écrivait, il fallait qu'il ait une perception de la vie très forte. Très, très forte. Alors, c'est impressionnant. Pour moi, c'est une sorte de comète. De comète dans l'univers des poètes.
Oui, un peu comme Rimbaud, mais plus sombre. Oui.
Plus sombre, oui. Plus sombre parce qu'il n'avait pas de famille, en fait. Rimbaud, il avait sa mère, il avait sa sœur, bon, qui était un peu éloignée, mais l'autre Rimbaud, il n'avait pas de famille. Il venait de l'Amérique du Sud. Il avait été élevé en Amérique du Sud.
D'accord.
Ouais, en Monténégro, je ne sais plus quoi, enfin, je ne sais plus... je ne connais pas bien sa biographie, mais même personne ne connaît très bien sa biographie. Mais il venait de très loin. Il n'avait pas de famille en France, quand il est arrivé en France.
Donc, il ne connaissait pas les Jacquemart André.
Je ne sais pas, justement. On sait très peu de choses sur ce poète. Je ne sais pas comment il a été découvert.
Oui.
Mais les surréalistes l'ont déterré de l'oubli. Les surréalistes.
C'est pour rebondir un petit peu, ma chère Evelyne, sur la visite. Voilà. La visite ludique, parce qu'il y a des visites de musées théâtralisées maintenant.
Oui, donc, j'ai vu.
Alors c'est fort sympathique. Et là, j'ai vu dernièrement, en costume, au musée Jacquemart André, qui se trouve au 158 boulevard Haussmann à Paris 8e, un magnifique musée, donc du lundi au vendredi, jusqu'au 28 août. Il y a donc les secrets de Nelly. Nelly, c'était donc Madame Jacquemart-André qui, avec l'aide de son majordome, nous fait visiter toutes les belles salles du musée, toutes les œuvres qu'elle a rapportées avec son mari. Et naturellement, intervient un vilain monsieur qui est suivi de sa femme de chambre. Et elle a son majordome et la femme de chambre. Il va y avoir une petite amourette. Mais enfin bref, ça c'est pour rigoler quoi. C'est pour voilà. Mais donc je trouve que c'est bien que c'est une visite ludique et sympathique pour faire visiter, pour faire connaître un musée, pour amuser aussi les enfants quelquefois qu'on traîne au musée parce qu'ils n'ont pas envie d'y aller. Et puis là au moins ils découvrent autre chose. C'est interprété de façon intelligente. Et c'est fait fort bien joué. Et je crois qu'au musée du Louvre, ils font pareil maintenant.
Ah bon ?
Oui, il me semble bien. Ouais, oui. Maintenant, ils s'y mettent aussi. Et donc, le Jacquemart-André, qui est aussi doté d'un très bon salon de thé aussi, ça je ne vous dis pas, avec les gâteaux qu'il y a, c'est à tomber. Mais donc, je vous conseille donc les secrets de Nelly. Alors, ils jouent tous les jours, du lundi au vendredi, 5 fois par jour. À 10h15, à 11h30, à 14h, à 15h15, à 16h30. Vous pouvez retrouver ça sur le site du musée Jacquemart-André, que je vous conseille de visiter. Il est magnifique. La prochaine exposition qu'il y aura à partir du 11 septembre, c'est sur le Tintoret. Donc j'irai voir. C'est toujours petit, les salles d'exposition. Hein. On avait été une fois... sont petites, enfin bon. Et il y a d'autres belles choses à voir, la salle de Venise, justement, les sculptures, et le magnifique escalier avec toutes ces belles peintures et tous les beaux objets qu'ils ont pu acquérir au fil des années. Voilà ma mini chronique théâtre. À toi, ma chère Evelyne, à vous les studios.
Eh ben, les studios, le studio,
oui.
Enfin bref, on n'est pas non plus
à la télé.
On n'est pas à la télé, on n'est pas à France Inter, on n'est pas, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben on va peut-être annoncer, on est allé voir, la semaine prochaine, on va recevoir le directeur du théâtre de la Huchette.
Hein. Monsieur Franck Despette.
Ouais. Et un comédien du théâtre de la Huchette. Et nous, on est allés voir, Anne et moi, la cantatrice Chauve et
la leçon.
Et moi, ça m'a bien plu. Connaissez
Oui, j'étais allé voir ces deux pièces.
Les cultissimes pièces de.
Ah, oui, bien sûr. Je sais plus, ça fait combien d'années qu'elles sont je sais,
depuis 70 ans.
70 ans, oui.
Oui, voilà.
La première fois où les deux ont été joués, c'était. Le 16 février 1957.
Voilà.
Et donc, c'est un théâtre qui a été ouvert en 1948. Voilà. Donc, on va recevoir le directeur et un des comédiens de la cantatrice Chauve la semaine prochaine.
Didier Bailly, oui.
Voilà. Et toi, tu reçois un comédien de la Grille.
Trois comédiens de la Grille. Une pièce que j'avais vue au mois de mai qui m'avait aussi intéressée et qui va se jouer au Théâtre Clavel en septembre. Donc, ils vont nous raconter leur histoire et donc je verrai avec eux. On ira les revoir d'ailleurs.
Ah oui. Et c'est quoi un peu le sujet de la pièce?
Le sujet de la la Grille, c'est quoi? C'est un jeu de télé-réalité. Avec des SDF et des personnes dans le métro qui font la manche. Alors, voilà. Donc, comment vont-ils avoir le meilleur tunnel de métro, le plus réputé, le plus intéressant? Eh bien, il faut voter pour les participants de la Grille. Alors, ils défilent en costume, si on peut dire, en costume, en haillons ou tout ça, ou avec leur pancarte en carton, où il est marqué dessus, merci, j'ai faim, ceci, cela, celui qui a le meilleur carton. C'est un peu ça. J'ai trouvé que c'était... original par rapport à ce qu'on voyait depuis lors. Voilà.
Ah oui, d'accord. Bon, très bien. C'est bien joué.
C'est pour ça que je... Oui, je t'en ai parlé. Voilà.
Ah oui, d'accord.
Et le public, il vote pas.
Non.
Non, c'est toujours la même pièce, d'accord. Il n'y a pas d'impro.
Ah non.
D'accord, c'est bien. Voilà pour le programme de la semaine prochaine. Et vous, alors, vos projets, alors à part le spectacle au studio Héberto, on va redire les dates quand même.
Alors, les dates, c'est du 20 septembre au 11 octobre au studio Héberto, à 19h les dimanches. Mm-hmm. Et pour la suite, je ne sais pas encore. Donc, probablement programmé dans un autre théâtre où on fera une prolongation au studio. Pour l'instant, on attend de voir.
Pas de CD, pas de télé.
Pas pour l'instant, non.
Pas pour l'instant.
Non, mais je vais par contre continuer à faire des castings, c'est sûr. Oui.
Ah bah c'est bien sûr.
Oui, c'est ça. Ouais. Là, vous êtes bien branché théâtre.
Voilà, oui, je me suis beaucoup concentré sur le théâtre. Je vais faire les deux maintenant.
Vous faites les deux maintenant.
Ouais.
Un peu de cinéma, un peu de télé.
Voilà, un peu de tout.
Un peu de tout.
Oui.
D'accord. Et toujours Baudelaire à vos côtés.
Oui, toujours en ligne de mire Baudelaire qui est là et qui me rassure, bien sûr.
Ah oui, il vous rassure.
Ouais. Ah oui.
Ah. et il vous critique aussi.
Bien sûr qu'il me critique, presque autant que moi, oui.
Ah oui.
Oui.
D'accord. Mais alors, vous avez décidé d'être comédien il y a longtemps ou
J'ai décidé de ça il y a 20 ans. Il y a 20 ans, non, il y a 12 ans. Il y a 12 ans.
Il y a 12 ans, à 20 ans alors.
Oui, à 20 ans.
Vous vous êtes fait gronder par vos parents?
Alors, pas du tout.
Ah.
Non, j'étais parti voyager à 20 ans, j'étais parti en Asie. Et j'ai rencontré des comédiens de rue au Népal et j'en ai fait pour la première fois là-bas.
D'accord.
J'avais un très mauvais anglais, donc eux jouaient en anglais, donc j'ai dû m'adapter. C'était difficile, mais disons que c'était une expérience très intéressante et ça m'a vraiment donné envie. En fait, en rentrant, je me suis lancé, j'ai pris des cours. Après, j'ai fait le conservatoire d'arrondissement. Et ensuite, les choses se sont un peu enchaînées.
Voilà. Ah, d'accord, ouais. D'accord. Parce que c'est dur quand même, le métier de comédien. C'est
bien
pas...
sûr. Oui.
C'est dur, il faut s'accrocher, quoi. C'est dur.
Oui.
Ouais.
Absolument.
Mais en même temps, moi, avec du talent, c'est
voilà. Oui. J'y crois, on continue, je continue. Et puis...
Oui, en tout cas, le spectacle, là... Ça vaut le coup de le découvrir. Hein. Je pense qu'il y a eu des bons échos quand même.
Oui, j'ai eu des bons échos, ouais. J'étais très content. Ouais.
Bon, c'est bien. Et c'est la première fois que vous faisiez un seul en scène comme ça ?
Oui, absolument. C'est mon premier seul en scène.
Ah, d'accord.
Oui. J'avais pas fait de théâtre depuis un moment. Et en fait, j'ai découvert le Club des Poètes, qui est un lieu fameux à Paris, où les gens viennent déclamer chaque soir des poésies.
C'est où, ça ?
C'est rue de Bourgogne, dans le 7e.
Je connais, ouais. Enfin, j'ai dû y aller moi une fois.
Oui, c'est possible. Ouais. C'est depuis les années 70 que les gens vont là-bas. Donc c'est...
Ah, et ils viennent déclamer des poèmes.
Voilà, absolument. Il faut le connaître par cœur. On vient avec son poème et on déclame. Voilà.
Il faut le connaître par cœur.
Oui, c'est une règle là-bas. Ouais.
Mais c'est des poèmes que vous avez écrits ou des poèmes
Ça peut être un poème qu'on a écrit, mais généralement, c'est plutôt des poètes célèbres, classiques.
Ouais. Ah, d'accord. C'est bien ça. Et c'est tous les mois que ça se donne.
Ah, c'est tous les mois, tous les jours, sauf le lundi.
C'est tous les jours en plus.
Ouais, c'est tous les jours.
Ah bon.
Parce que c'est un restaurant en même temps.
Ah, d'accord.
Donc il faut faire vivre. Il y a le restaurant et le récital.
Ah, d'accord.
Ouais.
C'est-à-dire que pendant que les gens ils mangent, il y a quelqu'un qui dit le poème ou comment
Alors,
ça se passe?
Alors, les gens en général dînent entre 19h et 21h30. Et à partir de 21h30, les lumières s'éteignent.
Ah, d'accord.
On allume quelques bougies et ça devient un récital. Bon, après, il y a des pauses, donc ça va jusqu'à minuit parfois.
Oh,
on fait des pauses, on boit un coup, on recommence. C'est difficile de réciter vers 23h parce que généralement, on est plus très frais, mais bon.
Ah, d'accord. Ah oui, mais c'est intéressant.
Oui. C'est un lieu très vivant et il y a beaucoup de jeunes et toutes les générations, c'est vraiment un chouette endroit.
Ah, toutes générations aussi.
Oui.
Pas forcément des comédiens du coup, alors c'est un peu tout.
Il y a pas mal de comédiens, mais effectivement.
Peut y aller, ouais.
Ah, mais à chaque fois que j'y suis allé, il y avait une personne qui était là pour la première fois et qui venait dire son poème.
D'accord.
Donc, il y a vraiment un brassage, il y a vraiment de tout.
C'est bien. Mais alors, parce que s'il y a beaucoup de monde qui vient de dire ce poème, il y a la queue ou comment ça se passe?
Alors ça dépend des soirs. Certains soirs, il y a beaucoup de monde et effectivement, on n'est pas toujours sûr de passer. Moi, je m'entends très bien avec Blaise, donc il a la gentillesse de me faire passer généralement au moins dans la première partie de soirée. Mais non, en général, il y a la place si on a envie de déclamer un poème.
Il faut s'inscrire.
Non, on ne s'inscrit pas. On va simplement voir Blaise, le patron. On lui dit qu'on aimerait bien dire un texte. Il nous demande souvent quand même quel texte on va dire parce que il est quand même. Il ne faut pas qu'on dise n'importe quoi. Et voilà. Ensuite, il nous appelle. Il n'y a pas de liste, c'est lui qui se souvient et il nous appelle.
Et après, vous faites la vaisselle.
Alors non, non. Pas la non, mais parfois, il paye des coups. Voilà.
Ah, c'est sympa.
Ah, d'accord. Ouais, ouais. Parce que les repas ne sont pas trop chers. Enfin, je
non, dire, non, c'est typique français. C'est pas très cher, c'est très bon. C'est...
D'accord, et c'est pas snob, non.
Ah, pas du tout. Non. Ah, non, pas d'accord. Du tout.
Non, c'est pas l'image du poète un peu...
Ah, il y en a.
Ah, il y en a.
Oui. Ah, bah, ça attire des gens comme ça. Il y a des gens qui se la pètent, évidemment, mais partout. Mais bon,
ah, oui.
Des...
ah oui, d'accord.
Oui. Non, mais c'est pas l'atmosphère du lieu.
Oui, d'accord.
Il y a parfois des gens un peu. Voilà. Mais c'est
oui. Ça a peut-être évolué. Hein. Moi, j'ai dû y aller il y a très longtemps et ça se passait pas exactement comme ça, je pense. Ouais. Oui, ça a dû
mais
évoluer.
Mais c'est quel lieu exactement ? Comment s'appelle le lieu ?
Ça s'appelle le Club des Poètes.
Ah, le Club des Poètes, tout simplement. Ouais,
7 rue de Bourgogne.
7 rue de Bourgogne.
Bah, on va y aller ensemble, Anne.
Ah, oui, voilà, on va manger avant.
Bah, voilà.
Il faut réserver.
Vous viendrez
pour
de ma
manger.
Part. Oui, oui, je serai peut-être là.
Il faut réserver avant de venir ?
Je crois pas, non. Je crois pas. Il suffit de venir vers 19h. En général, vous êtes sûr d'avoir une table. Non.
Bah, on va faire ça.
Ben voilà.
Ah oui, c'est une bonne idée, ça.
Et si Fabien est là...
Moi, ça m'intéresse, j'avoue que...
Ben voilà. Ah oui,
ça, cet automne.
Ah ben voilà.
Je préfère ça cet automne, on en reparle après l'émission.
Ça vous plaît, vous m'enverrez un mail pour me dire si ça, ça vous a plu.
Oui. Ah, vous y allez pas tous les jours, quand même.
J'y suis allé beaucoup, surtout avant le spectacle. Mais après, il fallait quand même que je respire un peu avec Baudelaire parce que là, je l'ai mis de côté pendant 2 mois pour pouvoir justement. Et en relisant, d'ailleurs, j'ai redécouvert certaines. Ce que vous disiez tout à l'heure, on redécouvre chaque fois. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé en l'ayant mis de côté 2 mois là. J'ai redécouvert des choses alors que c'est des poèmes que je dis depuis 6 mois.
Oui, vous l'avez mis en jachère, quoi.
Absolument.
Oui, mais c'est ça.
On va se travailler en
arrière-fond. Donc là, pour l'instant, vous laissez un peu l'esprit libre.
Ah, là, j'ai recommencé depuis 2-3 jours.
Avec Baudelaire ?
Ah oui, avec Baudelaire, oui.
Ah, d'accord. Oui. Et vous restez cantonné au texte que vous avez choisi au départ ou parfois vous avez l'idée de remplacer l'un par un autre ?
Alors, remplacer, non. Rajouter, oui. Je pensais en rajouter un ou deux, mais finalement, quand j'en ai parlé avec des gens qui étaient venus et même des regards qui étaient là, ils m'ont dit que c'était vraiment pas la peine et que c'était très bien comme ça.
C'est très bien comme ça. Oui.
Mais parce que, enfin, moi, j'ai mis du temps à les rassembler et à essayer de créer une trame narrative.
Oui.
Voilà, qui ressemble à essayer de raconter une histoire, même si c'est quasiment impossible. Donc je préfère pas y toucher parce que sinon ça serait simplement tout, enfin le changer pour changer ce serait pas pertinent quoi.
D'accord. Donc, après ça pourra faire l'objet d'un autre spectacle.
Ah oui.
Voilà,
oui,
c'est ça.
Bien sûr.
Oui.
Petit poème en prose partie 2.
Voilà.
Oui.
Eh ben, c'est bien. On va peut-être écouter. Ah non, ça y est.
On n'écoute rien.
Nous avons terminé l'émission.
Merci.
Très très bien.
Eh bien, si se termine pour aujourd'hui Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, et dans un instant, sur l'antenne de Radio Libertaire, Bulle Noire, magazine du polar.
T'as bien capté, Bulle Noire. Sur Libertaire, Radio Libertaire, on va parler de polar. Sur Libertaire, Radio Libertaire.
De 17h à 19h,
baby,
ton ami Bob reçoit le gratin des auteurs. Sur Libertaire.
T'as bien capté, Bulle Noire, sur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de polar, sur Libertaire, Radio Libertaire.
Attention, c'est pas l'heure de 4h,
baby.
Faut pas tromper, les flingues vont sortir des holsters.
Thank you. bien capté, bulle noire. Sur libertaire. On va parler de polar. Sur libertaire. Radio libertaire.
On parle de 38, de calibre 44.
Baby.
Mais bien sûr, tu es sur 89.4.
Radio Liberté.
Radio Liberté.
Radio Liberté.
Radio Liberté.
Radio Liberté.
Radio Liberté. Radio Libertaire sur 89.4.
Radio Libertaire, c'est Bulle Noire et Bulle Noire aujourd'hui. Et je ne dirais pas excusé puisque Bob de Terre est encore en vacances, mais on vous propose une rediffusion. Alors, Stéphane, appelez-le Stéphane ou Bob de Terre ou Robert de Terre, m'avait envoyé un lien pour vous rediffuser un spécial Martin Véron, mais là je suis en train de rechercher au niveau de la régie ce qui pose problème pour le téléchargement et ça ne passe pas. Mais c'est pas grave parce que dans le cadre des rediffusions de Bulle Noire, je vous propose un retour sur Romain Slocombe, une émission qui date d'octobre de l'an dernier. Ce pour une raison simple, Romain Slocombe vient de sortir un nouveau bouquin. Il y a une chronique d'ailleurs dans le Canard enchaîné pour ce bouquin. Alors justement, là on est sorti de la série des Sadorski avec Un été de trahison, si je me souviens bien, aux éditions du Seuil. Mais quand il était... Donc il passera nous voir pour parler de celui-là. Mais quand il était venu en octobre, c'était pour la troisième, quatrième trilogie, deuxième volume.